Liebe Geschwister, wir möchten einige Stellen aus dem Neuen Testament lesen.
Chers frères et sœurs, nous voulons lire quelques passages du Nouveau Testament.
Aus 1. Petrus 2,
1 Pierre 2,
Vers 25.
Verset 25. Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes.
Dans aus Johannes 10,
et alors en Jean 10,
Vers 11.
Jean 10, verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis.
Vers 14.
Verset 14. Moi, je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens.
Und weiter bis vers 17.
Et jusqu'au verset 17. Comme le Père me connaît, et moi je connais le Père, et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène elles aussi. Et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne.
Verses 27 et 28.
Versets 27 et 28, « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. »
Dans le chapitre 12,
chapitre 12,
verset 25 et 26,
versets 25 et 26, « Celui qui affectionne sa vie la perdra. » Et celui qui est sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Aus Kapitel 14,
chapitre 14,
die Verse 1 bis 3 und 6.
Versets 1 à 3, que votre cœur ne soit pas trouble. Troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Et au verset 6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Aus 1. Thessalonicher 4.
1 Thessaloniciens 4.
Vers 14.
Le verset 14.
Und 16.
14 et 16.
Und 17.
Ok, 14, 16 et 17. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Et verset 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.
1 Johannes 3,
1er épître selon Jean, chapitre 3,
verset 2 et 3.
Versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur.
D'accord. Liebe Geschwister, in der Bibel wird unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus manches Mal verglichen mit der von Schafen zu ihrem Hirten.
Chers frères et sœurs, dans la Bible, notre relation avec le Seigneur Jésus est plusieurs fois comparée comme les brebis avec leurs moutons. Les brebis avec leurs bergers.
Der Apostel Johannes, wir haben das gelesen, spricht von dem Herrn Jesus als dem guten Hirten und uns als seinem Schafen.
L'apôtre Jean parle du Seigneur Jésus du bon berger et de nous comme ses brebis.
Aber auch der Apostel Petrus spricht davon, dass wir einen Hirten und Aufseher unserer Seelen haben.
Mais aussi l'apôtre Pierre parle que nous avons un berger et un Aufseher. Surveillant de nos âmes, voilà, haben wir gelesen, comme on l'a lu.
Ich möchte auf die Stelle in 1. Petrus 2 erst später zurückkommen und zunächst einmal Johannes 10 aufschlagen.
On parlera plus tard du verset de l'épître de Pierre. On regarde d'abord Jean 10.
In Johannes 10 steht der Jesus als der gute Hirte im Kontrast zu den Dieben, Räubern und Verführern.
En Jean 10, le Seigneur Jésus comme le bon berger est en contraste avec les voleurs et les voleurs et les larrons.
Er gibt lässt sein Leben für seine Schafe. Das ist Liebe.
Lui, il donne sa vie pour ses brebis et ça c'est l'amour.
Der Dieb, der Räuber, der will nur verderben und stehlen.
Le voleur et le larron, il veut juste détruire et voler.
Solche fügen Schaden zu, aber der Herr Jesus gibt.
Eux, ils font, ils détruisent ou ils font du mal, mais le Seigneur Jésus, il donne.
Er gibt sein Leben.
Il donne sa vie.
Und dadurch gibt er uns ewiges Leben.
Et par cela, il nous donne la vie éternelle.
Aber die Liebe des Herrn Jesus zu den Schafen ist nicht das einzige und höchste.
Mais l'amour pour les brebis, l'amour du Seigneur Jésus pour les brebis n'est pas la seule chose et pas la chose la plus élevée.
Sondern die Liebe zu seinem Vater.
Mais l'amour envers son père.
Die steht an erster Stelle.
Elle est à la première place.
Liebe Geschwister, wir sind das gewohnt, zuerst an unsere Bedürfnisse zu denken.
Chers frères et sœurs, nous sommes habitués à penser d'abord à nos besoins.
Und als verlorene Menschen, in Sünde gefallenen Menschen, haben wir Vergebung nötig.
Et comme hommes pécheurs, tombés dans le péché, nous avons besoin de pardon.
Wir waren schuldig vor Gott.
Nous étions coupables devant Dieu.
Wir haben die ewige Verdammnis verdient.
On a mérité le... la condamnation éternelle.
Und deswegen brauchten wir Vergebung und Annahme bei Gott.
Et c'est pour cela que nous avions besoin le pardon et la réception devant Dieu.
Das war unser Bedürfnis.
Ça c'était notre besoin.
Aber der Jesus ist nicht auf die Erde gekommen nur deswegen.
Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre que pour cela.
Sondern er wollte Gott den Vater ehren.
Mais il voulait honorer Dieu le Père.
Er hat seine Liebe zu Gott dem Vater bewiesen.
Il a prouvé son amour envers Dieu le Père.
Ich möchte es einmal so sagen.
J'aimerais le dire ainsi.
Wenn keiner von uns, kein Mensch, je erlöst worden wäre.
Si aucun de nous, les hommes, n'aurait été sauvé.
Dann hätte der Jesus trotzdem am Kreuz sein Leben gelassen.
Alors le Seigneur Jésus l'aurait quand même donner sa vie à la croix.
Warum?
Pourquoi?
Als der Jesus am Kreuz hing,
quand le Seigneur Jésus était pendu à la croix,
da hat er sich hingegeben, dass Gott sein heiliges Wesen an ihm beweisen konnte.
Il s'est donné pour pour que Dieu pouvait prouver son être saint à lui, au Seigneur Jésus. Voilà. C'est compréhensible? Kannst du noch mal wiederholen?
Ja. Als der Herr Jesus ans Kreuz ging,
quand le Seigneur Jésus allait à la croix,
da hat sich dazu hingegeben,
il s'est donné,
damit Gott zeigen konnte, dass Licht und Liebe
voilà,
ist.
Pour que Dieu puisse montrer qu'il est lumière et amour.
Nirgends in der ganzen Weltgeschichte, nirgends im Universum ist je so deutlich geworden, dass Gott Licht und Liebe ist.
Aucun autre endroit dans le temps et dans le monde, il a été révélé que Dieu est lumière et amour.
Und unser Herr Jesus hatte es als der Sohn des Vaters im Herzen.
Et notre Seigneur Jésus l'avait autant que Fils du Père dans son cœur.
Dass einmal sichtbar würde, wer und wie Gott wirklich ist.
De manifester comment Dieu est vraiment.
Und darin hat den Vater so verherrlicht.
Et c'est en cela qu'il a tellement glorifié le Père.
Davon spricht Johannes 10, Vers 17.
C'est
darum
de cela,
liebt mich der Vater.
C'est de cela que parle Jean 10, verset 17, à cause de ceci le Père m'aime.
Ich möchte diese Tatsache betonen, weil wir zuallererst immer an unser Bedürfnis denken.
J'aimerais souligner ce fait parce que nous pensons souvent tout d'abord à nous.
Aber die Verherrlichung Gottes des Vaters, das ist hat den ersten Rang.
Mais la glorification de Dieu le Père à la première place.
Auch in 3. Mose 16 am großen Versöhnungstag.
Aussi en Lévitique 16, au grand jour de la comment on dit encore des propitiations,
sieht man genau diesen Punkt, den ich gerade dargestellt habe.
On voit ce point dont on vient de parler.
Ich möchte das an einem Beispiel klar machen.
Un exemple.
Zwei Böcke werden gebracht.
Il y a deux boucs.
Der erste ist für den Herrn.
Le premier est pour le Seigneur.
Und der zweite für das Volk.
Et le deuxième pour le peuple.
Für die Sühnung der Sünden des Volkes.
Pour la propitiation des péchés du peuple.
Aber der erste ist für die Majestät Gottes.
Mais le premier, il est pour la majesté de Dieu.
Nun, wenn wir den Herrn Jesus als unseren Erlöser kennen,
si nous connaissons le Seigneur Jésus comme notre Rédempteur,
der sein Leben für uns gegeben hat,
qui a donné sa vie pour nous,
dann sind wir jetzt seine Schafe.
Alors nous sommes maintenant ses brebis.
Wir haben in den Versen 27 und 28 davon gelesen, dass der gute Hirte Schafe hat, die seine Stimme hören und ihm folgen.
Nous avons lu dans les versets 27 et 28 que le Seigneur Jésus a des brebis qui connaissent sa voix et lui suivent.
Ich kenne sie, sagt und sie folgen mir.
Je les connais, ils me suivent.
In diesen beiden Versen 27 und 28,
dans les deux versets 27 et 28,
wird uns große Sicherheit für unseren Glauben gegeben.
Il nous est donné une grande assurance pour notre foi.
Denn in diesen Versen sagt der Herr Jesus, was grundsätzlich wahr ist in seiner Beziehung zu uns und unserer Beziehung zu ihm.
Car le Seigneur Jésus il nous dit ce qui est juste ou qui est vrai, fondamental dans sa relation en nous et notre relation en lui, envers lui.
Diese Schafe, die meine Schafe nennt,
ces brebis qu'il appelle mes brebis,
die stehen im Kontrast zu den Schafen von Vers 26. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen.
Ils sont en contraste des brebis au verset 26. Vous n'êtes pas, vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis.
Und diese beiden Gruppen von Schafen in Vers 26 und dann Vers 27, 28.
Et ces deux groupes de brebis dans le verset 26, d'un côté et d'autre côté 27 et 28.
Diese zwei Gruppen teilen prinzipiell die Menschheit ein in die gottlosen Ungläubigen und die Gläubigen.
Ils divisent l'humanité dans les incrédules et les croyants.
Entweder sagt der Jesus, gehört man zu denen, die nicht von seinen Schafen sind.
Soit on appartient à ceux qui ne sont pas de ses brebis, dit le Seigneur Jésus.
Oder man gehört zu denen, die seine Schafe sind.
Ou on appartient à ceux qui sont ses brebis.
Und dazwischen gibt es nichts.
Et entre deux, il n'y a rien.
Zu welcher Gruppe gehörst du?
À quelle groupe appartiens-tu?
Glücklich ist der, der zu denen gehört, von denen der Jesus sagt, meine Schafe.
Bienheureux celui qui appartient au groupe duquel le Seigneur Jésus dit mes brebis.
Der gute Hirte kennt seine Schafe.
Le bon berger connaît ses brebis.
Und das ist eine grundsätzliche Aussage.
Et c'est une expression fondamentale.
Mm-hmm. Denn er kennt seine Schafe nicht erst seitdem man sich bekehrt hat.
Car il connaît ses brebis non seulement depuis qu'on s'est converti.
Der gute Hirte als der Sohn Gottes steht als göttliche Person vor uns.
Le bon berger comme fils de Dieu nous est présenté comme personne divine.
Und er weiß, dass Gott der Vater ihm diese Menschen im Ratschluss Gottes zugedacht hat.
Et il sait que Dieu le Père lui a donné ces hommes dans son conseil divin. Il les lui a donné.
Und diese Schafe erkennt sie und sie folgen.
Et ces brebis, il les connaît et ils suivent.
Die Aussage, sie folgen, ist kein Imperativ, keine Aufforderung.
Elles suivent n'est pas un impératif, donc c'est pas un appel.
Sondern es ist einfach die Natur des Schafes, dass sie der Stimme des guten Hirten folgt. Das ist einfach normal.
Mais c'est la nature de la brebis qu'elle suive le berger, c'est simplement normal.
Und wenn ein Schaf dem Hirten folgt,
et si une brebis suit le berger,
dann ist das Schaf schlussendlich da, wo der Hirte jetzt schon ist.
Alors la brebis est finalement là où le berger y est déjà maintenant.
Und damit komme ich zu Kapitel 12.
Et là, on arrive au chapitre 12.
Wir können ja jetzt nicht alle Stellen im Detail betrachten.
On peut pas considérer toutes les passages dans le détail.
In Johannes 12 spricht der Jesus von dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt.
Au chapitre 12, le Seigneur Jésus parle du
Vers 24.
Il parle du voilà, du grain de blé, pardon, tombant en terre.
Der Herr Jesus war bereit zu sterben. Er hat sein Leben nicht lieb gehabt.
Le Seigneur Jésus était prêt de mourir. Il aimait. Il tenait pas à sa vie.
Sondern er war bereit, es zu lassen, aber das gab viel Frucht.
Il était prêt de la donner, mais ça donnait beaucoup de fruits.
Und wir, die als seine Jünger diese Frucht sind.
Et nous, qui comme ses disciples sont ce fruit.
Zu diesen Jüngern, zu uns, spricht er die Verse 25 und 26.
Et à nous, il dit les versets 25 et 26.
Wir haben im Lied und Gebet daran gedacht, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dass er unser Leben gestalten soll.
Nous avons pensé dans la prière que nous voulions suivre le Seigneur Jésus, qu'il doit diriger notre vie.
Und wir haben jetzt eine Aufforderung und eine Ermunterung an Nachfolger des Herrn Jesus in den Versen 25 und 26.
Et maintenant, on a dans les versets 25 et 26 un appel et un encouragement.
In Vers 25 haben wir eine Warnung oder eine Aufforderung.
Au verset 25, on a un avertissement ou un appel.
Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren.
Qui affectionne sa vie la perdra.
Damit meint der Herr Jesus, wer sein Leben in dieser Welt für Ziele in dieser Zeit lieb hat.
Par cela, le Seigneur Jésus veut dire celui qui aime sa vie pour des buts dans ce monde en ces temps-ci.
Der wird in der Ewigkeit erleben müssen, dass er arm ist, er verliert.
Il devra se rendre compte dans l'éternité qu'il est pauvre, il est perdant.
Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, wer nicht für diese Zeit lebt, für seine Interessen jetzt lebt, der wird das Leben wird es zum ewigen Leben bewahren.
Mais celui qui est sa vie il la garde, il la conservera pour la vie éternelle. Celui qui ne tient pas à sa vie sur cette terre, pour les buts qu'on a dit.
Worauf kommt es heute an? Worauf kommt es im Leben heute an?
Oui,
Was soll man heute im Leben tun?
Quoi faire dans notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Voilà, c'est ça.
Für den Herrn Jesus leben, ihm dienen.
Vivre pour le Seigneur Jésus, lui le servir.
Er hat dir und mir Gaben, Fähigkeiten gegeben, die wir einsetzen dürfen für ihn.
Il nous a donné des dons que nous devions utiliser pour lui.
Dann verzichten wir vielleicht auf Dinge in dieser Zeit. Alors, müssen nicht die höchste Stufe in der Karriere erreichen.
Alors nous
wir verzichten auf.
Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pour cela, on va pas jusqu'au but le plus haut dans la carrière, par exemple.
Und stellen den Herrn Jesus und seinen Wunsch an erste Stelle.
Et nous mettons le Seigneur Jésus et son désir à la première place.
In der Bergpredigt sagt der Jesus, dass wir Schätze für den Himmel sammeln sollen.
Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit que nous devons amasser des trésors pour le ciel.
Und wer heute für den Himmel lebt, der wird in der Zukunft das ewige Leben, Lohn haben.
Et celui qui vit aujourd'hui pour le ciel, il aura dans la vie éternelle la récompense.
Man kann verlieren, man kann gewinnen.
On peut perdre et on peut gagner.
Die richtige Beurteilung dafür, was Gewinn und Verlust ist.
La bonne, ja, sag erst mal den Rest.
Muss man mit der Perspektive aus der Ewigkeit sehen, mit dem Licht der Zukunft, muss man heute bewerten, was Gewinn und Verlust ist.
Si en regardant la perspective éternelle, qu'on peut dire si quelque chose est un gain ou de la perte.
Ich komme auf Vers 24 zurück.
Je reviens au verset 24.
Der Herr Jesus hat äußerlich gesehen alles verloren, als er auf der Erde war. Sein Leben verloren. Er ist wie ein Verbrecher gekreuzigt worden.
Le Seigneur Jésus, il a extérieurement tout perdu sur la terre. Il a été crucifié comme malfaitant.
Aber er hat das bewertet aus der Sicht der Zukunft wegen der vor ihm liegenden Freude.
Mais il l'a fait à cause de la joie qui était devant lui, donc il a considéré ça depuis la vue éternelle.
Und er hat gesehen, er hat gesehen und gewusst, wie viele Erlösten einmal im Himmel sein sollten.
Et il savait combien de des personnes sauvées seraient une fois au ciel.
Deswegen war er bereit, einen gegenwärtigen Verlust nach menschlicher Meinung hinzunehmen.
C'est pour ça qu'il était prêt d'avoir en vue humaine une perte.
Durch welche Brille beurteilst du das, was du im Leben tust?
Par quelle lunette tu regardes ce que tu fais dans la vie?
Auch mit der Brille der Ewigkeit, der Zukunft?
Par quelle lunette tu juges ce que tu fais dans ta vie? Par les lunettes de l'éternité?
Oder wie die Menschen, natürliche Menschen denken.
Ou par les lunettes comme pensent les hommes naturels.
Und dann in Vers 26 gibt der Jesus eine schöne Ermunterung.
Et au verset 26, le Seigneur Jésus donne un encouragement.
Denn da sagt er, wenn mir jemand dient, so folge mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein.
Parce qu'il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur.
Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass in dem Johannesevangelium wiederholt der Ausdruck kommt, wo ich bin.
Peut-être vous avez remarqué que dans l'évangile selon Jean, il y a plusieurs fois l'expression où je suis.
Wir haben gleich die nächste Stelle in Kapitel 14, wo der Jesus das auch sagt.
On a tout à l'heure un autre passage au chapitre 14 où le Seigneur Jésus le dit aussi.
Wo ich bin ist ein Ausdruck dafür,
où je suis, c'est une expression pour
für die Atmosphäre des Vaterhauses im Schoß des Vaters.
C'est une expression pour la sphère de la maison du Père dans le sein du Père.
Wo ich bin, da meint der Jesus, dass er von Ewigkeit her im Schoß des Vaters ist, in dem unerschaffenen Himmel des Hauses seines Vaters.
Où je suis, ça veut dire, le Seigneur Jésus veut dire, c'est où il était dès l'éternité, dans le sein de son Père, dans les cieux non créés.
Das meint der Jesus hier, und das ist die Ermunterung an seine Diener und Nachfolger.
Ça, c'est l'encouragement pour ses serviteurs et qui le suivent.
Wer ihm dient,
celui jetzt, qui le sert maintenant,
der wird einmal bei ihm sein in dem unerschaffenen Himmel des Hauses seines Vaters, wo er von Ewigkeit her ist.
Il sera une fois là dans la maison du Père, dans ces cieux non créés, où lui il est.
Und damit kommen wir, und dann heißt der Ende der Vers 26, wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren.
Et à la fin du verset 26, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Habt ihr einmal darüber nachgedacht, was für eine Ehre das ist?
Est-ce que vous avez déjà réfléchi une fois, quel honneur c'est?
Dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus denen, die seinem geliebten Sohn jetzt dienen, dass er die in seinem ewigen Haus haben möchte.
Que le Père de celui que nous servons maintenant, il veut l'avoir dans sa maison.
Das ist nämlich ein Haus von Ewigkeit her, das nicht für Menschen bestimmt ist.
C'est une maison, parce que c'est une maison qui, depuis l'éternité, n'est pas prévue pour les hommes.
Es ist keine Atmosphäre, die für Engel gedacht ist.
Ce n'est pas une atmosphère qui est prévue pour des anges.
Das ist die ewige Atmosphäre, wo die Gottheit wohnt.
C'est l'atmosphère éternelle où habite la déité.
Und doch möchte Gott der Vater gerade Menschen, die seinen Sohn lieben, dort einmal bei sich haben.
Et malgré cela, Dieu, il veut justement avoir des hommes qui l'aiment, il veut les avoir là en sa présence.
Und davon spricht der Jesus in Johannes 14.
Et c'est de cela que le Seigneur Jésus parle en chapitre 14.
Er erklärt seinen Jüngern, dass er jetzt in den Himmel geht.
Il explique à ses disciples qu'il va aller au ciel.
Um es genauer zu sagen, dass er in das Haus seines Vaters geht.
Pour le dire plus précisément, qu'il va dans la maison de son Père.
Wir müssen ja unterscheiden in der Bibel zwischen unterschiedlichen Bereichen von Himmel und dem Haus des Vaters.
On doit distinguer dans la Bible entre les différents cieux et la maison du Père.
Es gibt den Himmel, wo die Vögel fliegen.
Il y a le ciel où volent les oiseaux.
Das ist das Gleichnis vom Sämann.
Ça, c'est la parabole du semeur.
Dann gibt es den Himmel, wo die Sterne und die Sonne ihre Bahnen haben.
Après, il y a le ciel où il y a les étoiles et le soleil.
Und in Psalm 103, ihr könnt das nachlesen, in Vers 20 bis 22.
Et en Psalm 103, verset 20 à 22.
Gibt es einen Himmel, wo die Engel Gott dienen und loben.
Il y a un ciel où les anges servent Dieu et le loup.
Und in diesem Himmel hat Gott seinen Thron festgestellt und regiert über seine Schöpfung.
Et dans ce ciel, Dieu a établi son trône et il règne sur sa création.
Aber hier spricht der Jesus vom Haus seines Vaters.
Mais ici, le Seigneur Jésus parle de la maison de son Père.
Und im Haus des Vaters gibt es keinen Thron.
Et dans la maison du Père, il n'y a pas de trône.
Und im Haus des Vaters gibt es auch keine Engel.
Et dans la maison du Père, il n'y a pas d'ange.
Aber im Haus des Vaters gab es schon immer viele Wohnungen.
Mais dans la maison du Père, il y a toujours eu beaucoup de demeures.
Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass der Vater gerne eine Familie des Glaubens bei sich haben möchte in Ewigkeit.
Et ça montre aussi que Dieu, il veut avoir une famille de la foi chez lui dans l'éternité.
Und der Jesus erklärt seinen Jüngern, dass er jetzt in das Haus seines Vaters zurückgeht.
Et le Seigneur Jésus, il explique à ses disciples qu'il retourne dans la maison du Père.
Um dort eine Stätte für sie zu bereiten.
pour y préparer une place.
Nicht Wohnungen, aber eine Stätte.
Pas une demeure, mais une place.
Und es ist eben das Große im Hinblick auf die Person des Herrn Jesus.
Et c'est ça la chose la grande par rapport à la personne du Seigneur Jésus.
Dass er als eine Person der Gottheit.
Que lui comme une personne de la déité.
Bereit war Mensch zu werden.
Était prêt de devenir homme.
Und deswegen ewig Mensch bleiben muss.
Et à cause de cela devra rester éternellement homme.
Und Mensch bleiben wird.
Et il restera homme.
Um uns, nachdem er als Mensch in das Haus seines Vaters eingegangen ist,
pour après être entré dans la maison du Père,
für uns diesen unerschaffenen Himmel zu einem Wohnort zu machen.
Pour faire pour nous ces cieux non créés, pour en faire notre demeure.
Ich möchte das einmal so erklären.
Je veux l'expliquer de la façon suivante.
Der Jesus ist auf der einen Seite Gott, der Sohn.
Le Seigneur Jésus, d'un côté, c'est Dieu, le Fils.
Und er ist auf der anderen Seite der verherrlichte, auferstandene und verherrlichte Mensch.
Et d'un autre côté, il est l'homme ressuscité et glorifié.
Und weil er der Sohn Gottes ist, ist er die Verbindung zur Gottheit.
Et comme il est le Fils de Dieu, il est la relation envers la déité.
Und weil er verherrlichter Mensch ist, gibt es eine Beziehung zu Menschen, die erlöst sind und auch verherrlicht werden sollen.
Et comme il est homme glorifié, il a aussi une relation avec des hommes qui sont sauvés et qui seront aussi glorifiés.
Und so zentriert ist der Jesus wirklich der Mittelpunkt, in dem sich das Göttliche und der Mensch treffen.
Et donc ainsi le Seigneur Jésus, il est le centre où se rencontrent le côté de Dieu et le côté de l'homme.
Weil er im Himmel ist, hat der Himmel für uns ein Zentrum.
Comme lui il est au ciel, le centre le ciel, il a un centre pour nous.
Und dieses Zentrum ist der Jesus in seiner Liebe.
Et ce centre, c'est le Seigneur Jésus dans son amour.
Er sagt hier in Johannes 14, Vers 3, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid.
Ainsi il dit en verset 3, chapitre 14 de Jean, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.
Damit wo ich bin, auch ihr seid.
Afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.
Wenn ich einmal so sagen darf, dass die Qualität dieses Ortes,
si j'ose dire, la qualité de cet endroit,
wird für uns erfahrbar dadurch, dass er da ist. Wird für uns erfahrbar oder spürbar
oui,
oder
sera pour nous saisissable que lui il est là.
Er ist das Zentrum.
Lui il est le centre.
In Johannes 14 Vers 6 sagt der Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Au verset 6, le Seigneur Jésus dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Nul ne vient au Père que par moi.
Und das zeigt uns, wovon die Atmosphäre in diesem Haus geprägt ist.
Et ça nous montre de quelle atmosphère ou quelle atmosphère règne dans cette maison.
Von der Liebe des Vaters.
L'amour du Père.
Und das können wir uns noch nicht wirklich vorstellen, aber der Jesus betet in Johannes 17.
Et nous ne pouvons pas encore imaginer, mais le Seigneur Jésus y prie en chapitre 17.
Vers 24, bitte.
Verset 24. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Und genau da erkennen wir am Ende vom Vers 24,
et là, à la fin du verset 24, nous reconnaissons,
dass die Liebe Gottes des Vaters zu seinem geliebten Sohn,
que l'amour de Dieu le Père envers son Fils,
diese Herrlichkeit bedeutet,
signifie cette gloire,
die wir einmal sehen dürfen,
que nous allons voir une fois,
im Angesicht unseres Herrn.
dans la face de notre Seigneur.
Aber dann stellt sich die Frage, wie kommen wir denn dorthin?
Et la question se pose, comment on y arrivera?
Und da kann ich jetzt nur noch ganz kurz und knapp etwas zu sagen, aus 1. Thessalonicher 4.
Et là, on va dire quelque chose courtement de 1 Thessalonicher 4.
Ihr wisst, dass die Thessalonicher Kummer hatten, traurig waren wegen den ihren Entschlafenen.
Les Thessaloniciens, ils étaient tristes à cause de ceux qui s'en étaient allés.
Sie befürchteten, dass sie einen Verlust hätten.
Ils avaient peur qu'ils aient une perte pour ceux qui sont morts, quoi.
Aber dann erklärt ihnen der Apostel Paulus in Vers 14, wenn, vielleicht liest du den bitte nochmal den Vers.
On va encore une fois lire le verset 14. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus.
Er sagt, so wird Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen.
Il dit, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui sont endormis.
Hier steht nicht zu ihm bringen, sondern mit ihm bringen.
Ici, il n'est pas écrit amener vers lui, mais ou emmener, mais amener.
Es geht in Vers 14 nicht darum, wie wir in den Himmel entrückt werden.
Il s'agit pas au verset 14 comment nous sommes enlevés dans le ciel.
Sondern es geht um das einen ganz anderen Punkt. Es geht damit darum, mit dem Herrn Jesus gebracht zu werden in Macht und Herrlichkeit.
Mais il s'agit du moment où on viendra avec le Seigneur Jésus en puissance et gloire.
Donc, und wenn Gott uns mit ihm bringen möchte,
et si Dieu veut nous amener avec lui,
dann ist klar, dass wir erstmal zu ihm gebracht werden müssen.
Alors c'est clair que nous devons d'abord être amenés vers lui.
Und genau das erklärt Apostel Paulus in den Versen 15 bis 18.
Et c'est ça que l'apôtre Paul explique dans le verset 15 à 18 qu'on a lu ce matin aussi.
Deswegen, ich sehe auch bei euch in der Übersetzung sind die Verse 15 bis 18 in einer Klammer.
C'est pour cela que les versets 15 à 18 sont entre parenthèses.
Und immer wenn in unserer Übersetzung eine Klammer eingefügt ist,
et toujours s'il y a une parenthèse dans notre traduction,
dann wird eben ein Gedanke eingefügt in einen anderen Gedankenlinie, die eigentlich darüber geht.
Ja, une pensée qui est introduite dans une pensée dans un contexte qui parle d'autre chose, quoi.
Und das merkt ihr sofort, wenn ihr Kapitel 5 Vers 1 und 2 anseht.
Et on le voit tout de suite quand on regarde chapitre 5 verset 1 et 2.
Da hören wir von Zeiten und Zeitpunkten.
Là, on lit des temps et de saisons.
Die Entrückung der Gläubigen hat nichts mit Zeiten und Zeitpunkten zu tun.
L'enlèvement des croyants n'a rien à faire avec les temps et les saisons.
Aber die Prophetie und das Kommen in Macht und Herrlichkeit, das hat mit Zeit und Zeitpunkten zu tun.
Mais la prophétie et la venue en puissance et en gloire a à faire avec les temps et les saisons.
Oder in Vers 2, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.
Ou verset 2, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
Tag des Herrn ist ein Begriff aus der Prophetie.
C'est une expression le jour du Seigneur de la prophétie.
Und jetzt verstehen wir die Gedankenlinie von Vers 14 zu Vers 5, 1 und 2.
Et maintenant on voit la pensée du verset 14 en relation avec verset 1 et 2 du chapitre 5.
Es geht um das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit mit den Seinen am Tag des Herrn im Rahmen der prophetischen Ereignisse.
Il s'agit donc de la venue du Seigneur Jésus avec les siens dans les temps prophétiques, donc en puissance et en gloire.
Und deswegen erklärt der Apostel in den Versen 15 bis 18, wie wir zu ihm kommen.
Et c'est pour cela que dans les versets 15 à 18, l'apôtre explique comment on va chez lui.
Und das ist die Entrückung der Gläubigen, wenn der Herr Jesus wiederkommt.
Et ça, c'est l'enlèvement des chrétiens quand le Seigneur Jésus viendra.
Um uns nach oben zu rufen.
Pour nous appeler vers en haut.
Die alle, die dann leben.
Tous ceux qui vivent à ce moment-là.
Und die durch ihn entschlafen sind.
Et ceux qui sont morts, ou qui sont...
Darf ich mal etwas sagen zu dem durch Jesus entschlafen sein?
Est-ce que je peux dire quelque chose, être endormi dans le Seigneur, on dit comme ça? Hein? Endormi dans le Seigneur.
Das ist ein ganz lieblicher Ausdruck.
C'est une expression très, très belle.
Das zeigt uns, was geschieht, wenn ein Erlöster aus dem Leben hier abscheidet.
Ça nous montre ce qui se passe quand un chrétien, un croyant, arrête la vie ici sur la terre.
Er stirbt nicht einfach an Krebs.
Il meurt pas simplement du cancer.
So schlimm das auch ist.
Aussi grave que c'est.
Er stirbt nicht einfach an einem Autounfall.
Il ne meurt pas d'un accident de voiture.
Sondern, ich sage das jetzt mal so, er wird durch Jesus schlafen gelegt.
Il est couché, pour ainsi dire, par le Seigneur Jésus. Il est endormi par le Seigneur Jésus.
Das ist ein Ausdruck, wie wenn eine Mutter ein Kind hinlegt, damit es einschlafen kann.
C'est une expression comme quand une mère couche son enfant pour que l'enfant puisse s'endormir.
Das ist die Sicht der Liebe des Herzens unseres Herrn, wenn er eins der Seinen durch den Tod zwar, aber zu sich nimmt.
C'est la vue du Seigneur Jésus, la vue aimante du Seigneur Jésus, quand il prendra ceux qui sont endormis vers lui.
Und dann möchte ich noch etwas zu denen sagen, die leben, wenn er wiederkommt.
Et encore quelque chose par rapport à ceux qui vivront quand il viendra.
Die letzte Generation Gläubiger, die lebt, wenn der Jesus seine Braut entrückt.
La dernière génération des croyants qui vivra quand le Seigneur Jésus enlèvera son épouse.
Sie wird nicht kurz sterben, um dann sofort wieder auferweckt zu werden.
Elle va pas mourir courtement pour après tout de suite être ressuscité.
Sondern der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5.
2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit.
In Vers 4 am Ende, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben.
Verset 4 à la fin, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie.
Dieser Ausdruck zeigt, dass es nicht ein kurzes Sterben und Wiederauferstehen gibt, sondern aus dem Leben heraus wird das Alte wie aufgefressen von der unvergänglichen, ewigen neuen Leben.
Ça montre que on va pas mourir courtement, mais qu'on passe de la vie, ce sera un...
Verzehrt.
On sera...
Eingehüllt oder weggenommen.
Ouais. On sera transformé, quoi. Verwandelt, ne?
Ja. Ja,
steht ja auch woanders, aber das willst du nicht sagen.
Nein,
nicht.
Auffressen? Kann man das...
Ja, auffressen? Ja.
Absorbé. Ja. Oui. Und das ist ganz wichtig, liebe Geschwister.
Et c'est très important, chers frères et sœurs.
Weil das der Beweis ist für den Triumph des Herrn Jesus als der, der das Leben ist.
Parce que c'est la preuve de la victoire du Seigneur Jésus comme celui qui est la vie.
Das ist der Beweis, dass das Werk des Herrn Jesus so vollkommen ist.
C'est la preuve que l'œuvre du Seigneur Jésus est si parfaite.
Dass der Sieg des Herrn Jesus über den Teufel und den Tod so vollständig ist.
Que la victoire du Seigneur Jésus sur la mort et le diable est si grande et si parfaite.
Dass eben einer, der an ihn glaubt, nicht notwendigerweise sterben muss, um in den Himmel eingehen zu können.
Que quelqu'un qui croit en lui n'a pas besoin d'aller par la mort pour aller au ciel.
Deswegen sagt der Jesus in Johannes 11, wer an ihn glaubt und lebt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit en Jean 11 que celui qui croit en lui va vivre et ne pas mourir en éternité.
Wir werden vielleicht die Gläubigen sein, in denen der Herr Jesus seine Siegermacht in dieser Weise demonstrieren wird.
Peut-être sommes-nous cette dernière génération de croyants dans laquelle le Seigneur Jésus va démontrer cette victoire sur la mort et le diable.
Und damit komme ich zuerst Johannes 3.
Et avec cela, nous arrivons à 1 Jean 3.
Und dann sind wir bei ihm.
Et alors nous sommes chez lui, auprès de lui.
Kannst du dir vorstellen, wie das sein muss, wenn du die Stimme des Herrn Jesus erstmal hörst und er sagt, komm hier herauf?
Est-ce que tu peux t'imaginer comment ce sera quand tu entendras la voix du Seigneur Jésus qui dira, viens, monte ici?
Keiner von uns hat je die Stimme des Herrn Jesus mit uns, mit seinen Ohren gehört.
Aucun de nous a entendu la voix du Seigneur Jésus avec ses oreilles.
Wir haben den Ruf des guten Hirten im Wort Gottes gehört, ja.
On a bien entendu l'appel du bon berger dans la parole de Dieu, oui.
Aber bald wirst du deinen Namen und ich meinen Namen gerufen hören von seiner Stimme.
Mais bientôt nous entendrons nos noms appelés par sa voix.
Aber wir werden ihn nicht nur hören, wir werden ihn auch sehen.
Mais nous allons pas que l'entendre, nous allons aussi le voir.
Und davon spricht der Apostel Johannes in 1. Johannes 3.
Et de cela, l'apôtre Jean parle dans la première épître selon Jean au chapitre 3.
Er sagt in Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes.
Au verset 2, il dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Aber es kommt noch etwas, das ist heute noch nicht offenbar, das ist noch zukünftig.
Mais il y a quelque chose qui viendra, qui n'est pas encore révélé aujourd'hui, c'est encore futur, c'est pas encore manifesté.
Und wenn das eingetreten ist,
et quand ce sera fait,
dann werden wir ihn sehen, wie er ist.
Nous le verrons comme il est.
Und dieser einfache Satz, wir werden ihn sehen, wie er ist,
et cette phrase simple, nous allons le voir comme il est,
beinhaltet sehr viel,
comprend beaucoup,
bedeutet große Veränderungen für uns.
Ça signifie beaucoup de changements pour nous.
Wir haben eben schon ein wenig dran gedacht, dann muss das Sterbliche bei uns erstmal Unsterblichkeit anziehen.
Alors le mortel habillera l'immortel.
Und dann werden wir verherrlicht sein mit verherrlichten Leibern.
Et alors nous serons glorifiés avec des corps glorifiés.
Dann wird die Sünde, die heute noch in uns ist, auf der Erde bleiben, weg sein.
Alors le péché qui est encore aujourd'hui dans nous, il restera sur la terre, il sera plus dans nous.
Und wir werden vor unserem Herrn stehen und wir werden ihn sehen.
Et nous serons devant notre Seigneur et on va le voir.
Sehen, wie er ist, das heißt, wie er jetzt ist, als Verherrlichter im Himmel.
Voir comme il est, ça veut dire voir comme il est maintenant, comme glorifié dans le ciel.
Das bedeutet, dann müssen wir auch verherrlicht sein im Himmel.
Ça veut dire que nous devons aussi être glorifiés dans le ciel.
Ihm gleich sein.
Lui être pareil.
Aber wenn das auch so ist,
semblable.
Aber obwohl das durch Gnade so ist,
et même si c'est par la grâce ainsi,
bleibt er doch der Erstgeborene unter vielen Brüdern.
Il demeure le premier-né parmi beaucoup de frères.
Er muss immer und wird immer den Vorrang haben.
Il aura toujours la première, le Vorrang, la première place.
Aber wir werden ihn sehen.
Mais on va le voir.
Ich erinnere noch an eine Stelle aus Offenbarung 22, Vers 4.
Je rappelle encore un passage en Apocalypse 22, Verset 4.
Am Anfang von Vers 4, und sie werden sein Angesicht sehen.
Et ils verront sa face.
Liebe Geschwister, kannst du dir das vorstellen, wie das sein muss, wenn du das Angesicht des Herrn Jesus siehst?
Chers frères et sœurs, est-ce que tu peux t'imaginer ce que ce sera quand tu verras la face du Seigneur Jésus?
Er hat dich und mich schon geliebt, bevor wir lebten, bevor wir ihn je kannten.
Il nous a aimé, toi et moi, avant que nous vivions, avant que nous le connaissions.
Vor 2000 Jahren brachte seine Liebe zu dir ihn ans Kreuz.
Il y a 2000 ans, son amour envers toi l'a mené à la croix.
Und wir haben heute nur einen so schwachen Eindruck von ihm.
Et aujourd'hui, nous avons seulement une si faible impression de lui.
Aber das liegt an uns, nicht an ihm.
Mais c'est à cause de nous, pas à cause de lui.
Aber bald sind wir bei ihm.
Et bientôt, nous sommes auprès de lui.
Und dann werden wir seine Liebe aus seinem Angesicht, aus seinen Augen sehen und in unseren Herzen tief empfinden.
Et alors, nous verrons son amour de sa face, de ses yeux, et on le On en jouira dans notre cœur.
Dann sehen wir ihn wie ein Lamm wie geschlachtet.
Alors on le verra comme l'agneau immolé, comme immolé.
Und dann wird die Liebe, die er schon vor 2000 Jahren zu dir und zu mir hatte, uns überwältigen.
Et alors l'amour qu'il avait il y a déjà 2000 ans va nous
uns überwältigen.
Überwältigen.
Erfüllen.
Va nous remplir, submerger, voilà.
Und dann werden wir ihn ewig dafür anbeten.
Et alors nous allons l'adorer pour cela sans fin, éternellement.
Bis wir dort sind und seine Liebe sehen werden.
Jusqu'à ce que nous serons là et allons voir son amour.
Bleibt seine Liebe für uns aktiv hier in der Zeit im Leben.
Son amour pour nous reste actif pour notre temps ici dans la vie.
Er ist der und bleibt der Hirte und Aufseher deiner und meiner Seele.
Il reste le berger et le surveillant de notre et de ton et de mon âme.
Der Hirte gibt Nahrung.
Le berger donne de la nourriture.
Und der Aufseher behütet und bewacht uns.
Et le surveillant, il nous garde.
Und bringt uns auf den guten Weg zurück, wenn wir abirren.
Et nous ramène sur le bon chemin quand nous avons l'avons quitté.
Das ist seine Liebe heute.
Ça c'est son amour aujourd'hui.
Und wir werden bald seine Liebe in Ewigkeit sehen.
Et nous allons bientôt voir son amour en vérité, en éternité.
49. Son ancien.
Jésus, je te confesse, sauve-moi, Seigneur, ton sang. Ta voix. 157, les quatre premières strophes et la septième.
157, les quatre premières et la septième. Dans l'ancien.
Oh. 77, la deuxième strophe.
177, strophe 2.
Frères et sœurs, sans être trop long, permettez-moi juste une très très courte pensée par rapport à ce passage que nous avons lu dans l'évangile de Jean au chapitre 10, spécialement pour nos enfants, pour les plus jeunes s'il vous plaît. Au chapitre 10, je t'invite à prendre ta Bible de nouveau dans l'évangile de Jean au chapitre 10, et on va très rapidement relire le verset 27, page 81 de ma version. Nous avons lu « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais ». Et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, mais elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alors l'heure est bien avancée, je ne vais pas trop m'étendre, mais la première réflexion, mes brebis. Qui c'est qui sont les brebis du Seigneur ? Si tu te poses la question, tu regardes au chapitre 10, un tout petit peu plus haut, verset 14. Moi je suis le bon berger et je connais les miens. Tu vas retourner à l'école, qui sait, à ta droite ou à ta gauche, qui appartient au Seigneur ? Le Seigneur le sait. Tu as peut-être une idée. C'est vrai qu'on reconnaît l'arbre aux fruits, c'est un fait. Le verset 14 nous dit « Moi, je suis le bon berger et je connais les miens. » On ne va pas s'étendre là-dessus. Tu peux peut-être aussi te challenger, si tu as un peu de temps, tu regarderas la différence entre écouter et entendre. C'est intéressant. Tu entends très très souvent la voix de tes parents. Est-ce que tu les écoutes ? J'entends très très souvent la voix du Seigneur, est-ce que je l'écoute ? Vous regarderez un peu, c'est pas le sujet maintenant, mais vous regarderez un peu la différence entre entendre et écouter, c'est intéressant. Là où je voudrais m'arrêter un tout petit peu, et je terminerai là-dessus, c'est sur la fin du verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire une chose extrêmement simple et combien puissante. Ça veut dire que si un jour tu as reconnu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, que tu l'as accepté dans ton cœur, que tu as reconnu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, alors tu es sauvé pour l'éternité. Et personne ne pourra t'enlever de la main du Seigneur. C'est important de le rappeler parce que demain tu vas probablement reprendre le chemin de l'école. Tu vas croiser plein de gens. Tu entendras forcément à un moment donné, si ce n'est pas déjà arrivé. Oh, quoi ? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Quoi, Manu, tu t'es comporté comme ça ? Toi, tu es chrétien. Tu appartiens. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas entendu d'une voix réelle, tu l'as probablement entendu même dans ta tête. Quand tu as fait une petite bêtise. T'es sûr ? Est-ce que tu es sûr, en fait, d'être chrétien ? Et si cette voix commence un peu à t'inquiéter régulièrement. Tu reprends ta Bible à cette même page, page 81, Jean chapitre 10, verset 27, et tu le relis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et si tu as besoin d'un encouragement supplémentaire, eh ben, tu regardes le peuple d'Égypte. Quand le Seigneur, quand l'Éternel avait dit, vous prendrez un peu du sang et vous en mettrez sur le linteau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a ceux qui ont mis du sang, il y a ceux qui n'en ont pas mis. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que d'obéir, mettre du sang ? Ils ont mis du sang, L'Éternel est passé. Il n'y a pas eu de plaie. Quel effort ont-ils fait? C'est exactement la même chose pour le salut. L'effort, t'en as fait aucun. Tu as accepté. Point. C'est le Seigneur qui a tout fait. On l'a rappelé ce matin. Il a donné sa vie. En rançon pour plusieurs. C'est ce fameux grain qui est tombé et qui porte beaucoup de fruits. Mais si un jour, et ce jour arrivera, c'est certain, où tu te dis, ou même quelqu'un te le redira, es-tu sûr? Tu reprends ta Bible. Alors attention, naturellement, ce n'est pas un passe pour faire n'importe quoi. Hein. C'est absolument pas ça l'idée. Mais c'est qu'à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tu lui appartiens et personne ne pourra t'ôter de sa main. Et alors à partir de là, le cantique qu'on vient de chanter, que notre frère a indiqué, le cantique 49, eh ben, il prend une toute autre dimension. On va relire juste la dernière strophe. La fin de la dernière strophe. Quel amour! Tu veux sans cesse, ça veut dire sans arrêt, nous pardonner, nous guérir. Que cela vous encourage et ne l'oubliez pas. Et si jamais ben, cette petite pensée vous vient, ben, relisez cette portion de la parole. Et puis n'oubliez pas, ce n'est pas non plus un passe pour faire n'importe quoi alors que le Seigneur nous garde fidèles.
Et puis je voudrais juste ajouter une expression par rapport à ce que Manu vient de dire. Cette Jean 10, personne ne les ravira de ma main. Une autre manière dont la parole nous dit la même chose. Livre de Malachie, dernier, chapitre 3, livre de Malachie. Il est facile à trouver, ce dernier de l'Ancien Testament. Dernière page de l'Ancien Testament, au verset 17, « Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées. » Ils seront à moi, mon trésor particulier. C'est l'Ancien Testament, les choses sont dites avec d'autres termes, d'autres images. C'est l'Éternel qui parle, là où dans le Jean 10, c'est le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Et puis voilà. Nul ne les ravira de ma main. Ils seront à moi, mon trésor particulier. Pensez à ce que vous avez de plus précieux, comme les choses de la terre, que vous gardez précieusement, que vous veillez, que personne ne vous le prenne. Et c'est l'Éternel qui dit cela. C'est celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Ils seront à moi, mon trésor particulier.